sait très bien que la loi El Khomri, les décrets ne seront pas applicables. Écoutez, moi, on est très loin de ce syndicalisme, de ce parisianisme qui ne nous concerne pas.
Cet après-midi, nous accueillons 12 personnes soudanaises. Le ministère nous demande d'accueillir en urgence ces personnes-là. Donc, au 21 octobre, on sera complet.
Le 23 juillet, on a ajouté la Champagne-Ardenne parce qu'on ne savait pas quoi en faire. C'est comme ça qu'on a conçu cette région.
En plus, on la juxtaposition et un empilement de petits matins. La nuit debout, c'est vraiment ça qu'elle peut permettre.
Bonjour à toutes et bienvenue dans Une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour décrypter les grands sujets de l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous reviendrons largement sur le débat autour de l'organisation de l'islam dans notre pays. Un débat qui a repris quelques jours seulement après les attentats de Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray. La réponse aux attaques djihadistes passe-t-elle par une nouvelle réforme des institutions de l'islam? C'est la question que nous poserons à nos invités. En deuxième partie d'émission, un sujet plus léger. À l'heure de l'ouverture des JO de Rio, nous nous pencherons sur la nouvelle passion des Français pour les sports extrêmes. Mais tout de suite, notre première discussion. C'est un très vieux et très long débat qui est revenu depuis dimanche dernier à la une de la presse. Alors que le pays était encore sous le choc après les attaques terroristes de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, deux tribunes publiées dans le JDD sont venues relancer l'idée d'une réorganisation des institutions de l'islam en France. La première est signée de la main du Premier ministre, Manuel Valls. Pour lui, toutes les pistes doivent être explorées pour lutter contre la radicalisation djihadiste, du financement des mosquées qui pourraient engager des moyens publics, à la formation des imams qui devraient s'effectuer en France et non à l'étranger. Le même jour, dans le même JDD, un autre texte signé d'un collectif de personnalités musulmanes lui donne la réplique d'après ses signataires. L'islam français doit se mobiliser et prendre ses responsabilités. Et pour cela, pourquoi ne pas relancer la Fondation pour l'islam de France, créée en 2005 et restée depuis à l'arrêt? Quelques jours plus tard, la quasi-totalité des personnalités politiques avait donné leur avis sur la question. Le président de la République, François Hollande, a même répondu à son Premier ministre « Non à tout financement public des cultes en vertu de la loi 1905 ». Mais cette Fondation pour l'islam de France pourrait bien être relancée, avec peut-être à sa tête l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Alors, pourquoi envisager de nouvelles réformes aujourd'hui, 13 ans après la création du Conseil français du culte musulman? Un nouveau débat institutionnel est-il la solution pour contrer la radicalisation et la violence djihadiste? Ou au contraire, est-ce à la société civile de s'emparer de la question en dehors des instances officielles de l'islam? Nous en parlerons pendant toute la première partie de cette émission. Avec quatre invités. En plateau à mes côtés, Sadek Belousif, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-signataire d'une tribune publiée dimanche dernier dans le JDD intitulée « Nous, Français et musulmans, sommes prêts à assumer nos responsabilités ». Vous êtes médecin, chef de service à l'hôpital Avicenne de Bobigny et ancien membre du Comité consultatif national d'éthique. À vos côtés, Samir Amgar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste du salafisme, chercheur à la European Foundation for Democracy, qui est basée à Bruxelles, auteur d'un ouvrage intitulé « Le salafisme aujourd'hui », édité chez Michalon. Avec nous par téléphone, Didier Lesky, bonjour monsieur.
Bonjour.
Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ancien directeur du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, ancien préfet pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis, et vous avez publié avec Régis Debray un ouvrage intitulé « La laïcité au quotidien » chez Gallimard. Et nous joindrons tout à l'heure Solène Joanneau, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Strasbourg, auteur d'un ouvrage intitulé « Les imams en France, sociologie d'une autorité religieuse sous contrôle » aux éditions Agone. Pour débuter peut-être cette discussion, c'est vers vous que je me tourne, Sadek Belousif. La tribune que vous avez co-signée dans le JDD dimanche dernier était très volontariste. Je vais vous citer. « Nous, musulmans, étions silencieux parce que nous avons appris qu'en France, la religion est une affaire privée, écrivez-vous. Nous devons maintenant parler parce que l'islam est devenu une affaire publique et que la situation actuelle est intolérable. En tant que musulmans de foi ou de culture, nous sommes concernés par l'impuissance de l'organisation actuelle de l'islam de France, qui n'a aucune prise sur les événements. » Alors, Sadek Belousif, pourquoi un tel ton? Pensez-vous que le CFCM peut réellement faire plus contre la violence djihadiste dans notre pays?
Merci, merci de cette question. Écoutez, le CFCM est dans sa fonction quand il réagit face aux dérives et aux attentats et qu'il est dans le culte, la partie cultuelle. Nous, nous voulions mettre l'accent sur la dimension culturelle et dans un but, une volonté de cohésion nationale. Et effectivement, nous sommes membres de la société civile de toutes origines qui sont plutôt avec une réussite professionnelle. Il n'y a pas de volonté d'élitisme de classe, mais simplement de se rendre compte que nous sommes restés trop longtemps silencieux dans l'intimité de la sphère privée. La religion, c'est du domaine privé et c'est même du domaine intime. Mais on s'est complètement scandalisé par toute cette violence et ces actes de terrorisme. Nous nous sommes dit que une prise de parole, même si nous n'avions pas l'habitude, était devenue absolument nécessaire.
Il faut agir, dites-vous, en tant que musulman, mais aussi en tant que français. Est-ce que vous voyez autour de vous une génération prête à se mobiliser contre ces attentats? Ou peut-être au contraire, en tant que musulman, peut-être éprouvez-vous une certaine lassitude à devoir répondre aux mêmes questions finalement sur l'islam depuis des années, à chaque fois que survient un attentat?
Je dirais que d'abord, c'est d'une réaction en tant que citoyen, en tant que français. La religion, je le disais, c'est du domaine intime privé. Je ne peux pas, en vertu de la loi de séparation de 1905, je ne peux pas vous demander quelle est votre religion. Je ne peux même pas vous demander si vous êtes croyant, parce qu'on s'est tué pour ça. C'est du domaine intime privé. M'appelant Sadek, vous pourriez imaginer que je sois musulman, mais je pourrais tout à fait être chrétien maronite ou copte. Et là, finalement, la dimension musulmane, elle passe au second plan de la dimension vraiment citoyenne, républicaine et culturelle. On est dans de la culture d'islam. Le grand écrivain Amin Malouf, il a beau ne pas être musulman, il est de culture musulmane. Le petit François qui a vécu toute sa vie au Maroc jusqu'à l'âge de 25 ans, il est de culture musulmane, parce que bien que chrétien, eh ben, il a compris ce qui se passe et ce qui se joue là. Et là, on a vraiment une dimension de concorde nationale. Réfléchissons que tous, citoyens horrifiés par l'ampleur du terrorisme et de ses multiples manifestations, antisémites ou pas, tous nous nous retrouvons finalement ensemble. Les victimes qui sont mortes, elles n'avaient pas de religion particulière, elles étaient de toutes origines.
Justement, un mot, Sadek Belousif, sur un début de polémique qui a marqué ce début de semaine. Dans les premières lignes de votre texte, vous mentionnez les victimes du terrorisme, des caricaturistes, des jeunes écoutant de la musique, des policiers. Pas de mention des victimes juives de l'hypercachère ou des victimes de Mohamed Merah. La communauté juive s'en est émue. Bariza Kiari, l'une des co-signataires de ce texte, au nom de tous les signataires, a rendu public un message en forme de mise au point. Nous ne faisons aucune différence entre les victimes du terrorisme aveugle qui frappe notre nation. Vous pensez quand même qu'il y a eu une maladresse dans la rédaction de ce texte ?
Écoutez, je crois que cette discussion est derrière nous. On a reconnu que les 41 signataires, c'était des personnes de bonne foi et de bonne volonté. On a publié un collectif. Il n'y a pas de choix victimaire ni de hiérarchisation des victimes. On doit aller vers de la concorde parce que notre socle, c'est vraiment de la cohésion nationale qui est en jeu.
Par téléphone, Didier Lesky, bonjour. Vous êtes un ancien directeur du Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur. Que vous inspire ce débat sur les instances de l'islam de France? On reparle du financement des lieux de culte, de la formation des imams. On a le sentiment d'un débat mené à chaud après les attentats, même s'il faut rappeler la publication d'un rapport du Sénat début juillet sur l'organisation de l'islam. Le moment est-il, selon vous, réellement bien choisi?
Écoutez, le moment est bien choisi. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est important que les musulmans croyants aient une instance représentative, parce que notre cadre juridique, qui est issu de la loi 1905, mais aussi d'autres textes, ne peut fonctionner que si l'État a un interlocuteur cultuel connu avec lequel il peut permettre aux fidèles de la foi musulmane comme peuvent d'accéder à l'ensemble de leurs droits. Voilà. Et j'ajoute que notre cadre juridique, c'est l'exercice public du culte et pas simplement une affaire privée. Le culte, la manifestation de foi peut se faire de manière publique. Et je crois qu'il ne faut pas confondre deux débats. C'est un débat général sur le fait que on doit, tout citoyen doit se mobiliser contre le terrorisme, et un autre débat qui est que ceux qui se réclament du terrorisme et qui se réclament aussi en même temps de l'islam, et qu'il y a un sujet qui n'est pas de l'ordre des pouvoirs publics, mais qui est interne à la communauté musulmane religieuse, qui est celle de mener la bataille politique contre les déviations extrêmes qui se font à partir de la foi musulmane. Ce sont deux sujets différents. Le premier sujet, c'est la nécessité d'une organisation, parce que c'est comme ça qu'il y aura la possibilité d'exercer pleinement ses droits pour les musulmans, comme il y a la conférence des évêques de France pour les catholiques, comme il y a le consistoire israélite, et comme il y a la fédération protestante de France. Alors, je crois que c'est ça qui est important.
On vous décrit comme un chevènementiste. Comment réagissez-vous à l'hypothèse évoquée par le président de la République de relancer cette fondation pour l'islam de France avec à sa tête Jean-Pierre Chevènement? Nathalie Goulet, sénatrice UDI, parle de mise sous tutelle de l'islam. Elle a déjà employé cette expression. La ministre Laurence Rossignol verrait plutôt une femme. Alors Jean-Pierre Chevènement, on sait, était à l'origine du processus qui avait abouti à la création du CFCM avec une consultation sur l'islam lancée en 99. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de cette nomination?
Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par chevènementiste, mais si c'est de dire que j'ai une grande estime pour Jean-Pierre Chevènement, si je crois, a été un des premiers et même à un moment donné un des rares grands responsables politiques à avoir manifesté son opposition à la guerre du Golfe en expliquant qu'elle allait créer de grandes catastrophes. Et le terrorisme, c'est quand même un des derniers avatars de ces aventures, je dirais, tragiques. Hein, là, oui, je suis tout à fait de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que la Fondation des œuvres de l'islam de France, j'en ai rédigé avec d'autres, mais je suis un des principaux rédacteurs des statuts de celles qui existent aujourd'hui. Et à l'époque, nous avons cherché des personnalités qui pouvaient se revendiquer de l'islam, enfin qui étaient de confession musulmane, pour participer et même pour la diriger, et nous n'avons trouvé personne. Et c'est pour ça que nous sommes à la fin retournés vers les seuls interlocuteurs que nous avions, c'est-à-dire les membres du Conseil français du culte musulman. Qu'aujourd'hui des personnalités se manifestent en disant « je veux maintenant participer du débat et de l'organisation de l'islam de France », je crois que c'est une bonne chose, hein, et mieux vaut tard que jamais. En ce qui concerne Jean-Pierre Chevènement, c'est quelqu'un qui effectivement a lancé la consultation, hein, qui a permis de stabiliser, je dirais, au moins un embryon d'instance, hein, qui est le Conseil français des cultes musulmans. C'est quelqu'un qui connaît bien le monde arabo-musulman, qui en plus a travaillé autour de la question proprement de l'islam, parce qu'il a été en dialogue important avec Jacques Peyre, qui était aussi membre de son mouvement, et que vous pourriez qualifier aussi de chevènementiste. Et donc, et je crois que c'est une personnalité morale incontestable, qui en plus qui rayonne même au sein des sociétés de l'autre côté de la Méditerranée, puisque je rappelle que l'essentiel des fidèles musulmans qui sont en France sont d'origine maghrébine, et je crois que c'est important. Donc,
oui, mais vous comprenez, le registre de la critique qui a été exprimé, c'était aussi le fait de se demander si il serait pas plus adapté d'avoir une personne issue de la communauté musulmane, justement.
Ça, oui, j'entends bien ce registre de critique qui dit, ah ben oui, pourquoi lui? D'abord, il n'y aurait pas ce registre de critique si depuis 10 ans, des personnalités s'étaient manifestées en disant, moi, je suis musulman et je suis prêt à participer à l'organisation d'une fondation, quitte à en fonder une nouvelle, puisque rien n'empêche d'autres d'en fonder. Et je dirais que les personnalités qui se manifestent aujourd'hui, je pense que leur tâche immédiate, c'est deux choses. La première, c'est commencer à réfléchir sur la manière d'organiser la venue de flux financiers proprement français, hein, pour aider à l'édification du culte ou à leur rénovation. La deuxième chose, c'est que je rappelle que la loi de 1875 permet de mettre en place des instituts de formation privés, hein, comme il y a l'Institut catholique, comme il y a des instituts de théologie protestants, pour organiser, je dirais, une formation théologique importante de l'islam, pour l'islam de France, donc pour pas importer des imams. Et la troisième chose que ces personnalités, à mon avis, doivent faire, c'est rentrer en dialogue important avec ce qui fait la masse des fidèles musulmans. Parce que notre problème aujourd'hui, hein, il n'est pas simplement culturel, je dirais. Il est de trouver le lien avec ceux qui vont prier dans les mosquées. Il y a en France 2700 mosquées, il y en avait 1700 au moment de la création du CFCM. C'est-à-dire qu'en une quinzaine d'années, il y en a 1000 de plus qui se sont ouvertes. Elles sont extrêmement fréquentées. Comment on rentre en dialogue, et c'est pas l'État qui peut le faire, ou des gens qui ne sont pas de confession musulmane qui peuvent le faire, comment on rentre en dialogue avec ces fidèles musulmans, et en particulier comment on rentre en dialogue avec ces jeunes qui sont en recherche de spiritualité. Parce que ce qui manque aujourd'hui au sein du monde musulman français, je dirais, c'est un pôle spirituel, hein, qui soit suffisamment crédible, hein, qui donne vraiment le sentiment de vivre, je dirais, pour la foi, hein, pour l'islam, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit un pôle de référence, hein, et qu'il soit capable d'avoir une capacité d'attraction, hein, qui contre c'est ce soleil noir qui est le djihadisme ou le radicalisme. C'est ça l'enjeu. Le reste, ça, c'est de la littérature, mais c'est un combat politico-théologique dont nous avons besoin. Je dirais que les questions matérielles sont à la fois importantes, mais un peu secondaires par rapport à la question centrale, mais qui là dépend effectivement de la mobilisation autre de celle de l'appareil d'État.
Samir Amgar, je me tourne vers vous. On parle justement avec Didier Lesky de la fondation de ce CFCM, l'institutionnalisation de l'islam en France. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, un problème dans la façon dont l'islam a été organisé, justement ? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de fabrication, si j'ose dire ? Je m'explique. Est-ce qu'il est logique d'en appeler à la création ou la transformation d'un islam de France, qu'on peut beaucoup lire dans la presse aujourd'hui, alors que dès l'origine, et c'est ce que rappelait Didier Lesky, pour des raisons pratiques, le CFCM a été créé autour des grandes fédérations qui représentaient les pays d'origine des communautés de croyants ?
Alors, effectivement, je pense qu'il est important de redéfinir ou de définir véritablement quelle fut et quelle est actuellement la mission du Conseil français du culte musulman. Le CFCM n'a d'autre rôle que d'assurer la gestion du culte musulman. Il n'a pas, en ce sens, un rôle de représentativité de la communauté musulmane au sens large. Pour preuve, l'une des bases de la représentativité du Conseil français du culte musulman se fait à partir des mosquées. Donc on part du principe que le cultuel est un moyen, si vous voulez, par lequel on peut représenter quelque part une partie de la communauté musulmane. Or, certains musulmans, force est de constater, ne se reconnaissent pas, sont peut-être de culture musulmane, se définissent comme des musulmans de tradition et ne se reconnaissent ni dans les mosquées, ni dans les fédérations d'associations musulmanes, ni dans le CFCM. Dès lors se pose la question suivante, est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est nécessaire de créer peut-être à côté du CFCM une organisation qui n'a pas pour but de représenter ou de gérer le culte musulman, mais un peu à la manière du CRIF, d'intégrer toutes les tendances de l'islam de France au-delà du cultuel, politique, sociétal, etc., etc., pour servir d'interlocuteur officiel avec les pouvoirs publics.
Et cet organisme, ça pourrait être justement cette fondation de l'islam de France ?
Ça pourrait être effectivement cette fondation de l'islam de France. Mais effectivement, si vous voulez, si on se pose des questions sur la nécessité de fonder ou de créer cette fondation de l'islam de France, c'est que objectivement, en dépit, si vous voulez, de la bonne volonté des pouvoirs publics de mettre en place un conseil français du culte musulman, ce même conseil français du culte musulman est, à ce jour, encore une coquille vide, a du mal, si vous voulez, à prendre des décisions, si vous voulez, qui puissent impacter l'ensemble de la communauté musulmane à un niveau cultuel.
Mais c'est une question administrative ou c'est une question de sensibilité ? Vous parlez justement de cette coquille vide administrative, mais est-ce qu'il y a aussi une question de discours ? Est-ce que peut-être l'idée d'avoir ces interlocuteurs représentatifs pour les pouvoirs publics, pour l'État, est-ce que c'est quelque chose qui a trouvé un écho dans la communauté musulmane, justement ?
Alors, il y a, force est de constater, une sorte de déficit, c'est-à-dire que la nomination ou l'élection, si vous voulez, par différents collèges électoraux, suffrage indirect, a fait que finalement, ces représentants du Conseil français du culte musulman est en complet déphasage, si vous voulez, avec les aspirations de la communauté musulmane d'une manière générale. C'est-à-dire que vous allez poser la question à n'importe quel musulman, de savoir qui est le président actuel du CFCM, il sera incapable de vous dire que c'est Anwar Kibibesh. Donc vous voyez bien effectivement qu'en termes de représentativité, cela est véritablement problématique et en termes également de légitimité. D'autant plus que si vous voulez, en termes concrets, le CFCM a jusqu'à présent jamais pris véritablement de décision qui puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, impacter véritablement le culte en matière islamique.
Didier Lesky par téléphone voulait réagir justement à votre propos. Didier Lesky.
Oui, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire, d'abord parce que qu'est-ce que ça veut dire la communauté musulmane ? Je veux dire, indépendamment de la question de la foi. On ne peut pas faire un parallèle justement avec le CRIF ou avec le monde juif, parce que ce n'est ni la même histoire, ni le même ancrage historique qui fait qu'il y a une spécificité juive qui n'est pas la même et qu'on ne peut pas décalquer comme ça. Et après, il y a des personnes qui se revendiquent de l'algérianité, du Maroc, qui peuvent être d'Asie du Sud-Est, ou qui sont simplement français. Et donc, on ne peut pas mélanger les deux sphères. Je veux dire qu'on ne demande pas à des Français de culture historique catholique de prendre position sur la manière dont les catholiques doivent fonctionner. Ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas pas de sens. Mélanger les deux n'a pas de sens. Et quel est le problème de fond ? Les dérives que nous connaissons terroristes, ce sont des dérives à partir d'une interprétation, d'une mésinterprétation du texte religieux. Et c'est sur ça que doit se mener la bataille. Et quelle peut être la légitimité de quelqu'un qui n'est pas croyant pour aller leur parler ou pour énoncer quelque chose qui a à voir avec de la spiritualité religieuse
sur cette question
embarque des jeunes. Donc ça n'a pas de sens comme discussion.
Sur cette question justement, Didier Leschi, sur la représentation de la communauté musulmane, je redonne la parole à Samir Amgar qui voulait réagir.
Alors ça n'a pas de sens. Je ne pense pas que ça n'a pas de sens en fait. Allô. Je peux. Oui.
Samir Amgar.
Oui. Alors. Je pense effectivement que mon analyse a, bien au contraire par rapport à ce que vous dites, a énormément de sens dans la mesure où le CFCM, si vous voulez, a énormément de points communs avec le consistoire israélite. Or, si vous voulez, on assiste depuis quelques années et depuis cette tribune à cette volonté d'une partie de la communauté musulmane ou des communautés musulmanes, si vous voulez, d'avoir une autre forme de représentativité autre que cultuelle. Et donc, il me semble qu'il est important d'avoir, si vous voulez, ou d'acter ce type de revendication, même si, effectivement, en l'espèce, le CFCM doit continuer à jouer un rôle, si vous voulez, en termes de représentativité du culte musulman.
Didier Leschi, vous êtes toujours avec nous par téléphone.
Oui.
Je voulais vous poser une question sur une... Pardon, je vous donne la parole. Donc, sur cette question de la représentativité de la communauté musulmane, manifestement, il y a un point de désaccord avec Samir Amgar.
Oui, je veux dire que la communauté musulmane, telle qu'il entend, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais là, on n'est pas dans l'ordre du droit, si vous voulez. Hein, et on n'est pas dans l'ordre de l'égalité de traitement. Pourquoi on a besoin d'une représentation des croyants musulmans ? Parce qu'on a besoin de faire fonctionner un cadre juridique. Et pour le faire fonctionner, et pour montrer qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement entre le croyant catholique, le croyant juif et le croyant musulman, on a besoin d'un interlocuteur. Et c'est important parce que pendant très longtemps, le sentiment et même la réalité de l'inégalité de traitement augmentait la frustration et pouvait amener à des revendications et à faire en sorte que, ça, avec la conjonction des problèmes sociaux, on ait une revendication politico-religieuse extrêmement dommageable. Et donc, tout l'enjeu de la création du Conseil français du culte musulman depuis 10 ans, ça a été d'organiser cette égalité de traitement. Et je dois dire qu'il y a quand même des réussites qui ont été faites. Par exemple, nous sommes le seul pays, hein, et on ne le dira jamais assez, à avoir une aumônerie militaire, hein, et même au ministère de l'Intérieur, en propre pour les musulmans. Et tous les autres pays d'Europe qui ont des aumôniers musulmans les mettent sous l'autorité des cultes chrétiens. Nous avons créé une autonomie totale de l'aumônerie musulmane. C'est absolument rare. Ça devrait être souligné. Ça, c'est l'égalité de traitement. Parce qu'il y a un Conseil français des cultes musulmans, nous avons réussi à augmenter le nombre d'aumôniers. Parce que la République n'a pas de définition de ce qu'est un rabbin, un curé ou un imam. Et que notre système juridique, c'est qu'il faut une autorité culturelle, religieuse, pour présenter des aumôniers à l'administration pénitentiaire, à l'armée, à l'hôpital. Voilà des choses très concrètes. C'est parce qu'il y a un Conseil français du culte musulman et parce qu'il y a des conseils régionaux du culte musulman que, par exemple, les collectivités locales ont trouvé des interlocuteurs qui ont permis de développer les baux emphytéotiques, hein, qui sont la base du développement immobilier du culte musulman depuis des années. Et c'est l'utilisation d'un moyen juridique qui avait été utilisé dès les années 30 pour les catholiques. Voilà pourquoi.
Alors donc Didier Leschi, on comprend bien. Des réussites quand même pour le Conseil français du culte musulman. Je vous fais réagir vous aussi, Sadek Belloussi, puisque vous étiez très critique dans votre tribune au JDD sur les échecs finalement du Conseil français du culte musulman pour se saisir de la réalité de la situation, de la question de la radicalisation, etc. Donc vous êtes très critique. Quand même des réussites. Je vous voyais opiner du chef.
Absolument. On est dans deux registres différents. Le CFCM est absolument dans son rôle, dans toute la dimension culturelle. Et M. Leschi a absolument raison de souligner qu'en droit, la nation, l'État, a besoin d'un interlocuteur religieux pour définir ce que peut être un imam, un rabbin, un prêtre ou un aumônier. Et je cite son article du Monde de cette semaine. La loi de 1905 a effectivement prévu, à très juste titre, des aumôneries dans les lieux et situations questions de réduction de liberté dans les prisons, dans les écoles, enfin les enceintes internats ou dans les hôpitaux ou à l'armée. On a besoin d'un cadre général pour pouvoir gérer ça. Mais on voit bien en même temps que là, nous gravissons tous la même montagne, même si c'est par des chemins différents. Il y a une dimension cultuelle qui est absolument importante, mais il y a aussi une dimension culturelle. Notre question, c'est que finalement, à mon sens, la vraie vie, c'est d'accepter les questionnements et de lutter contre les fondamentalismes. Si j'ai une lecture littérale de la Bible, je vais croire que le monde a été créé en 7 jours et puis terminé. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'introduire de la culture et puis du doute dans une herméneutique, dans un accompagnement de la spiritualité. Monsieur Lesky a cité tout à l'heure, accompagnant Monsieur Chevènement, le regretté Jacques Berck, traducteur du Coran émérite et ancien professeur au Collège de France. Mais qui connaît Berck aujourd'hui? Qui connaît Berck aujourd'hui? On a besoin de se réapproprier cette dimension culturelle, justement, pour pouvoir avancer.
La caution à l'instant sur France Culture.
Une semaine en France. Antoine Dulster.
On poursuit notre débat sur l'islam de France en compagnie de Sadek Belloussif, Samir Amgar, Didier Lesky et Solène Joanneau. Une idée est revenue dans le débat ces derniers jours, l'idée de recréer un concordat en France, un concordat donc un contrat juridique qui permet d'engager des finances publiques dans la construction des lieux de culte. Le concordat est toujours en vigueur en Alsace et en Moselle, qui n'étaient pas des territoires français au moment de la loi 1905 de séparation entre l'Église et l'État. Mais dans ce système aujourd'hui, l'islam fait figure d'exception dans une exception. Il n'est pas une religion concordataire, mais le droit local permet tout de même de mobiliser les finances publiques pour bâtir des lieux de culte. J'ai interrogé Shaib Choukri, le directeur de la Grande Mosquée de Strasbourg, et je lui ai demandé s'il trouvait ce système concordataire plus logique que celui qui a cours dans le reste de l'Hexagone. On écoute sa réponse.
C'est peut-être une chance pour nous en Alsace. Comme vous le savez, M. Ries, maire de la ville de Strasbourg, a toujours souhaité mettre à pied d'égalité les droits et les devoirs des citoyens strasbourgeois. Les responsables des différents cultes en Alsace ont signé une charte de soutien à leurs frères et amis musulmans et sont très favorables à l'encouragement et à la participation financière symbolique des lieux de culte de toute confession, pour une meilleure visibilité et pour une meilleure transparence.
Est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable que l'islam devienne justement une des religions concordataires en Alsace-Moselle, puisque pour l'instant elle ne fait pas partie du droit concordataire et le débat ressurgit régulièrement?
Oui, la communauté musulmane souhaite vivement avoir sa place dans le concordat et œuvrer ensemble avec l'ensemble des cultes pour l'intérêt de notre pays et de nos communautés.
Alors, Chaïb Choukri, vous avez aussi une expérience d'aumônier et de formateur d'aumôniers musulmans dans les prisons.
Oui.
Pour la formation de ces aumôniers, et en fait bien au-delà, la formation des imams oui. ou des responsables religieux, vous semble-t-il possible de tout réaliser en France? Ou est-ce qu'il est encore plus réaliste aujourd'hui de continuer de faire appel au savoir-faire de pays comme le Maroc, la Turquie, les pays d'origine finalement des communautés de fidèles?
Nous avons toujours espéré que notre expérience dans les prisons de France puisse avoir lieu à l'extérieur. Nous avons des richesses énormes à partager et nous devons mettre en valeur la fraternité humaine. Et comme vous le savez déjà, la Grande Mosquée de Strasbourg porte un projet important de faculté de formation des imams et des cadres religieux que nous souhaitons mettre en place en partenariat bien sûr avec l'Université de Strasbourg et pourquoi pas avec l'Institut Mohamed VI inauguré en 2015 à Rabat. Le Maroc, comme vous le savez, est un pays stable et le modèle marocain, qui est une école malikite, une école très tolérante, est géré par un ministère fiable et respectueux. Il est apprécié par le monde entier, cette école. Bien, ce modèle marocain, il est apprécié par le monde entier. Il y a un grand nombre de pays qui forment leur cadre religieux au Maroc. Alors pourquoi pas, nous, les Français, en attendant la mise en place d'une solution définitive de cette institution de théologie musulmane, si vous voulez, c'est un commencement. Mais pourquoi pas ne pas commencer par ça et enfin, une fois qu'on aura la possibilité d'être indépendant en France, on attend, nous, si vous voulez, avec impatience, la réalisation de ces grands projets en France.
Donc le témoignage de Chaïb Choukri, président de la Grande Mosquée de Strasbourg, qui abordait notamment la question de la formation des imams. Votre réaction au plateau, Samir Amgar, des imams formés en France à terme, mais plutôt au Maroc dans l'immédiat, ça vous paraît une bonne solution?
Alors, je ne me prononcerai pas, on va dire, sur la validité, si vous voulez, de cette solution. Je dirais tout simplement que, à ce jour, si vous voulez, il y a deux problèmes liés à la question de la formation des imams d'une manière générale, et je pense que ma collègue Solène Joanneau reviendra sur la question. D'une part, sur la question de la formation en tant que telle, c'est-à-dire que la grande majorité des imams qui officient en France sont des imams étrangers, qui ont une formation universitaire en théologie islamique dans des pays étrangers, et donc parfois, et bien souvent, en déphasage avec l'environnement dans lequel ils vivent. Ils ne maîtrisent pour certains pas du tout la langue ou très mal la langue et ne maîtrisent pas forcément les codes culturels du pays dans lequel ils vivent. Donc ça c'est un élément, si vous voulez, fondamental qu'il faut véritablement avoir à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle on voit émerger un peu partout en France des instituts de théologie islamique tels que l'Institut Razali ou l'Institut européen...
Pour la mosquée de Paris donc. Hein.
Pour la mosquée de Paris ou l'Institut européen des sciences humaines pour la branche française des frères musulmans qui ont pour objectif de former des prédicateurs, des imams, du personnel religieux qui maîtrise à la fois le corpus islamique, mais également le contexte politique, culturel et sociétal dans lequel ils vivent. Ça, c'est un élément, si vous voulez, fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est que quand bien même on formerait correctement ces imams, il y a un problème lié au statut. C'est-à-dire que pour un imam, il n'est pas du tout intéressant d'un point de vue financier que d'exercer dans une mosquée. Pourquoi ? Parce qu'en général, un imam gagne entre 500 et 1000 euros. Donc un statut précaire et un statut qui amène nécessairement non pas simplement à gérer les 5 prières quotidiennes, mais à également exercer une fonction de travailleur social, de discuter avec les collectivités locales, avec le maire, avec les services de renseignement, célébrer les mariages, jouer le rôle de juge de paix entre les membres de la communauté musulmane. Donc si vous voulez, toutes ces fonctions ont du mal, si vous voulez, à séduire des individus qui se disent bah, finalement on doit assurer ces fonctions pour très peu d'un point de vue financier.
Pour approfondir ce sujet, nous retrouvons une autre invitée, Solène Joanneau, bonjour.
Bonjour.
par téléphone. Vous êtes donc maître de conférence à l'Université de Strasbourg, spécialiste de cette question de la formation des imams. Vous venez d'entendre ce qu'a dit donc Samir Amghar. J'aimerais revenir aussi sur un pacte qui a été passé, un accord plus précisément entre la France et le Maroc pour une formation, comme ce qu'évoquait à l'instant Chaïb Choukri également, des imams au Maroc, des imams qui seraient des imams du juste milieu. Est-ce qu'ils seraient à même, ces imams formés au Maroc, de prêcher justement un islam adapté au contexte français ?
Alors, moi, je me pose pas vraiment la question comme ça, si vous voulez, parce que c'est pas à moi de dire ce que serait l'islam du juste milieu et est-ce qu'il serait...
C'est l'expression qui avait été employée par les pouvoirs publics, effectivement,
oui,
avec
un tas de... Je pense surtout qu'on verra si ces imams-là trouvent un public, c'est-à-dire que il y a un mythe qui a eu la vie dure alors qu'il commence à s'effriter en France et c'est une très bonne chose, hein. C'est le mythe de l'imam autoproclamé, c'est-à-dire qu'il suffirait finalement que quelqu'un arrive dans une mosquée en se présentant imam pour qu'il puisse le devenir. Ce que montre, ce que moi j'ai pu observer sur le terrain pendant les 6 ou 7 années d'enquête que j'ai menées, c'est que l'imam il est choisi par la communauté de fidèles, c'est-à-dire par les gens qui fréquentent la mosquée. Alors évidemment, les responsables des mosquées ont sans doute plus de poids dans la sélection de l'imam que le simple fidèle, sauf que si la personne choisie ne convient pas à une majorité de fidèles, il ne reste pas. Donc on peut former tous les gens qu'on veut. La question c'est est-ce qu'à un moment donné, ces gens formés vont répondre aux attentes des gens qui peuplent les mosquées françaises. Et je crois qu'il faut, s'il y a quelque chose d'important, c'est de sortir d'une vision débilitante des communautés de fidèles musulmans. C'est-à-dire que ces gens-là ont ce qu'on appelle en sociologie une agency, c'est-à-dire qu'ils sont capables de choix, ils sont capables de jugement et qu'ils choisissent des gens qui leur conviennent. Donc tout à l'heure, Samir disait il y a des imams qui parlent très mal français. C'est vrai, mais il y a des communautés de fidèles où ça ne pose pas problème parce que justement, ce qu'on veut, c'est un imam qui parle bien l'arabe classique et on a notamment dans des communautés de fidèles assez âgées où ce qui va faire l'attractivité de la mosquée, c'est le fait d'aller entendre l'arabe, d'aller entendre un arabe littéraire, pur, etc. Il y a des mosquées où à l'inverse, effectivement, si vous avez beaucoup de francophones, soit parce que vous avez beaucoup de convertis, soit beaucoup de jeunes issus de familles maghrébines mais qui sont nés en France et qui parlent pas forcément bien l'arabe, ou aussi de communautés immigrées d'Afrique de l'Ouest, qui sont quand même plutôt francophones, eh bien là, effectivement, on va plutôt rechercher un imam qui est capable de prêcher dans les deux langues. Je crois qu'il faut sortir de cette vision-là. Et puis,
je voulais avoir aussi votre sentiment, Solène Joanneau, sur cette espèce de bricolage, finalement. On parlait tout à l'heure d'un accord d'association entre la France et le Maroc pour la formation d'imams du juste milieu. On voit aussi ces systèmes de diplômes universitaires, des espèces de brevets de laïcité qui seraient décernés à des imams. On avait beaucoup parlé de ça au moment où un accord avait été passé avec l'Algérie. Est-ce que, finalement, cette espèce de bricolage de la part des pouvoirs publics, qui sont quand même tenus par la loi 1905 qui interdit à l'État de se mettre dans les affaires de culte, est-ce que ce bricolage peut être même parfois sur le terrain contre-productif dans les exemples que vous avez vus ? Est-ce que les communautés de fidèles se sentent peut-être moins représentées par ces imams qui seraient certifiés laïcs, par exemple ?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, les propos de M. Lesky tout à l'heure étaient très représentatifs du paradoxe dans lequel les agents de l'État français sont. C'est-à-dire que quand moi j'ai ouvert les archives du ministère de l'Intérieur, la chose qui m'a frappée le plus, c'est comment on pouvait avoir d'un côté une injonction perpétuelle au respect de la laïcité et ces agents du très laïque État français en même temps qui passaient leur temps à écrire dans des notes pour leur ministre il faut que l'islam réalise son aggiornamento. Il faut que l'islam se réforme. Et là encore, Monsieur Lesky nous dit il faut que l'islam il faut que on réforme l'islam, qu'on mène un combat théologico-politique. Je crois qu'ici, on touche au paradoxe, c'est-à-dire que la position des agents de l'État français, et notamment au sein du ministère de l'Intérieur, depuis 30 ans est la même, c'est on joue avec les limites de la laïcité, comme le disait un ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement, on mord un peu le trait, et lui-même reconnaissait que c'était un euphémisme. Mais en fait, on intervient aujourd'hui pour ne plus avoir à intervenir demain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que quelqu'un lance un débat sur est-ce qu'il faut réformer la loi de 1905, rapidement on va dire non, parce qu'effectivement l'objectif n'est pas de repenser la laïcité. L'objectif est d'arriver à organiser l'islam sur un modèle relativement similaire à celui des autres cultes, sauf que les autres cultes, ils ont été organisés sous Napoléon, à l'époque concordataire.
Oui, donc c'est une histoire vieille de très nombreuses années, avec effectivement ce concordat, puis un siècle plus tard, la loi de séparation des églises et de l'État. Sadek Belousif, en plateau, vous voyez, vous vouliez réagir justement sur ce que disait Solène Joanneau.
Oui, parce que ce que l'on entend est frappé du coin du bon sens, parce que Madame Joanneau révèle le fait qu'on est dans une articulation politique assez subtile entre la foi, la culture, mais il ne faut pas oublier la citoyenneté à la fois pour les musulmans et pour les non musulmans. En fait, ça m'a fait penser à la phrase célèbre de Clermont-Tonnerre en 1789 qui, prenant position pour l'accession à la citoyenneté des juifs, disait « Il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus ». Et justement, on a pu obtenir, et c'est Michel Rocard, le regretté Michel Rocard, qui de manière un peu subtile disait oui, c'est accordé dans l'ordre aux juifs, aux protestants, aux comédiens et aux hommes de couleur. Alors je ne sais pas maintenant si la communauté arabe est rentrée dans la quatrième stade, mais finalement on comprend bien que dans cette dimension, on a besoin à la fois d'une compréhension religieuse, mais aussi culturelle. Et à la conjonction de ces deux éléments-là, on a par exemple l'enseignement du fait religieux qui est absolument essentiel en France. La semaine prochaine, nous allons avoir l'Assomption. Quelle différence par rapport à l'Ascension ? Qui connaît encore cette distinction-là ? Ces éléments-là sont importants et on doit accompagner par la spiritualité, par l'approfondissement de la foi, ce sont des questions culturelles. Et c'est, je crois, cet enseignement du fait religieux, cette compréhension du religaré, qui permettra aussi de mieux comprendre, dans une éducation pratique, qu'est-ce que c'est que la laïcité. Beaucoup de personnes veulent la réformer sans avoir bien compris ses fondements, qui sont pour le moment absolument clairs.
Si on revient sur l'idée de la radicalisation, puisque finalement ce débat sur l'islam aujourd'hui a été justifié par les attentats terroristes de ces dernières semaines, de ces derniers mois et de ces dernières années. Samir Amgar, je vous redonne la parole. Est-ce que vous pensez que tout le débat que nous sommes en train d'avoir ici sur l'organisation de l'islam a réellement un rapport au fond avec la question de la radicalisation djihadiste ? Est-ce que cette radicalisation, elle a encore lieu dans les mosquées, par exemple ?
Alors, globalement, si vous voulez, les radicalisations, les processus de radicalisation n'ont plus lieu dans les mosquées. Elles ont lieu dans d'autres lieux, que ça soit virtuel, autour d'un leader charismatique. Mais force est de constater que depuis 2001, les imams que l'on pourrait qualifier de radicaux n'officient plus dans les mosquées ou à de très rares exceptions. Ça, c'est un élément, si vous voulez, fondamental. Et lorsqu'on parle, si vous voulez, de nécessité d'organiser ou de réorganiser l'islam de France, on part du principe que finalement, ce déficit d'organisation nourrit quelque part, si vous voulez, la radicalisation. Or, si on a ce type de lecture, on considère globalement et on nie, si vous voulez, que ces processus de radicalisation se nourrissent en grande partie d'un déficit de représentativité politique. C'est-à-dire que si un individu décide de commettre un attentat en France ou décide de partir en Syrie, il le fait moins parce qu'il n'a pas de représentants islamiques dans lesquels il se reconnaît que des personnalités politiques qui pourraient quelque part porter les doléances de cet individu sur un certain nombre de dossiers afférents à la communauté musulmane d'une manière générale. Donc c'est un élément, si vous voulez, fondamental. Et globalement, si vous voulez, les pouvoirs publics ont souvent cette tentation de définir ce qu'ils entendent, définir ce qu'on pourrait appeler un bon islam, c'est-à-dire le bon islam qui permettrait quelque part d'endiguer le mauvais islam qui nourrirait in fine les processus de radicalisation.
Et avec donc les traductions que ça implique en termes de fermeture de mosquées, je crois que depuis le début de l'état d'urgence, donc fin 2015, une vingtaine de mosquées salafistes fermées, selon Bernard Cazeneuve, 120 mosquées au total seraient de sensibilité salafiste en France sur 2500 mosquées et salles de prière. Est-ce que cette agitation des pouvoirs publics, justement, résulte d'un mauvais diagnostic sur l'origine de la menace ? Vous dites que la radicalisation n'a plus lieu dans ces mosquées.
Alors, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit que les pouvoirs publics, en termes de radicalisation, ont le logiciel, si vous voulez, de radicalisation suivant. Ils considèrent que, globalement, le fondamentalisme ou une pratique orthodoxe de l'islam est la première étape vers la radicalisation. Donc l'une des manières de lutter de façon préventive contre la radicalisation implique nécessairement la fermeture de lieux de culte ou l'arrestation d'individus qui prôneraient cet islam fondamentaliste qui serait considéré comme le premier pas vers la radicalisation. Or, un certain nombre d'enquêtes, dont les miennes, ont montré que le fondamentalisme musulman, même le plus poussé, n'amène pas nécessairement à la radicalisation.
Oui, vous faites une distinction entre ce que vous appelez le salafisme quiétiste, qui ne débouche pas sur des actions violentes, qui consisterait en un retrait sur soi, un retrait hors de la société, et effectivement un autre type de salafisme qui serait un salafisme qui mènerait à l'action violente. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passage entre les deux, Samir Amgar?
Alors, il n'y a pas de relation mécanique entre les deux. Ce n'est pas parce que vous devenez un salafiste quiétiste que vous devenez automatiquement un salafiste djihadiste. Or, il y a, si vous voulez, des incohérences idéologiques qui tendent à penser finalement que l'un est le premier passage, la première étape vers le salafisme djihadiste. Or, il me semble que même s'il y a un fond commun idéologique, doctrinal, c'est-à-dire que autant le salafisme quiétiste que le salafisme djihadiste puisent aux mêmes racines théologiques, force est de constater qu'à l'heure actuelle, les divergences sont telles qu'il est difficile de parler d'un même et unique salafisme. Autrement dit, j'oserais, si vous voulez, la métaphore suivante, c'est que le salafisme quiétiste est au salafisme djihadiste ce que la gauche démocratique est à Pol Pot ou au Khmer Rouge. Et donc, c'est quelque chose d'important et qu'il faut véritablement avoir à l'esprit lorsqu'on veut diagnostiquer les phénomènes de radicalisation d'une manière générale.
Réaction, Sadek Belloussif, sur cette distinction entre deux types de salafisme et sur cette erreur possible de diagnostic des pouvoirs publics. Est-ce qu'il suffirait de fermer des mosquées dites radicales pour éliminer effectivement l'origine de la radicalisation?
Je ne crois pas, effectivement. On voit bien que là, on est simplement sur la face immergée de l'iceberg et qu'on a des éléments explicites ou implicites qui sont bien plus profonds et complexes au sens littéral du terme et qu'il faut tout faire pour comprendre.
Solène Joanneau, je voulais vous redonner la parole à vous aussi sur cette question justement de la radicalisation. Quelle peut être aussi la réponse de la société civile musulmane, des imams que vous avez rencontrés face à cette radicalisation?
Écoutez, moi, c'est vrai que ce qui me frappe dans le débat depuis le début, c'est qu'on parle beaucoup d'islam, beaucoup d'organisation du culte musulman, beaucoup de ce que devrait être une réponse théologique, mais je veux dire, on n'a pas abordé une seule fois les structures sociales qui permettent aujourd'hui cette violence, c'est-à-dire on n'a pas abordé quand même le conflit qui se déroule en Syrie et en Irak et qui est quand même la base sur laquelle se construit toute cette violence. On n'a pas abordé la situation économique française, l'exclusion dans les quartiers, la question des violences policières, enfin tout un tas de questions quand même qui sont essentielles pour comprendre aujourd'hui pourquoi des mouvements ultra-violents, au-delà des questions théologiques, peuvent avoir une forme d'attractivité sur une jeunesse en perte de repère, en difficulté d'insertion sociale. Et je crois que, quelque part, à tout miser sur le religieux, c'est très dangereux. C'est-à-dire que, pour moi, la crise à laquelle doivent faire face les pouvoirs publics, hein, et qui est très compliquée, si c'était qu'une crise religieuse, ce serait beaucoup plus simple. Le problème, c'est que toute cette violence-là, elle se nourrit de facteurs qui dépassent bien largement la question religieuse. Je crois surtout qu'il ne faut pas enfermer cette violence-là dans un prisme, une lecture uniquement religieuse. On le voit dans les trajectoires des djihadistes, c'est-à-dire que quand même, beaucoup n'allaient pas à la mosquée, beaucoup quelque temps avant de s'être radicalisés n'avaient pas de pratique religieuse, et donc c'est pas en investissant sur les imams qu'on va régler le problème. Hein, ce serait tellement simple, mais non, je veux dire, le problème, il est à mon avis, alors là c'est une lecture de sociologue sans doute, mais avant tout socio-économique.
Samir Amgar en plateau, vous vouliez réagir au propos de Solène Joanneau justement sur cette articulation entre les causes nationales ou internationales ou la résonance entre ces causes sur la radicalisation?
Oui, je pense qu'il faut véritablement avoir à l'esprit que les facteurs, si vous voulez, liés à la radicalisation sont multiples et qu'il est très difficile, si vous voulez, d'isoler une variable pour pouvoir expliquer l'entièreté du phénomène. Or, ce qui me semble important lorsqu'on discute avec un certain nombre de djihadistes et lorsqu'on discute avec des personnes qui basculent dans la radicalisation violente, c'est que même s'ils ne se revendiquent pas de l'islam, enfin même s'ils n'ont pas une pratique régulière de l'islam, même s'ils ne fréquentent pas les mosquées, même s'ils n'ont pas de lecture assidue, on va dire, de théologiens, si vous voulez, orthodoxes, force est de constater que ces individus ont baigné dans une dans un paradigme ou dans une lecture très particulière de l'islam, c'est-à-dire qu'ils ont grandi, ont été socialisés dans une vision hégémonique de l'islam, c'est-à-dire que l'islam est la solution à tous les problèmes. Au-delà, si vous voulez, de slogans islamistes, c'est-à-dire que lorsque vous regardez et lorsque vous expliquez globalement que l'islam en tant que tel, ou la lecture, une certaine lecture de l'islam n'a pas d'impact sur les processus de radicalisation, force est de constater que c'est véritablement le contraire. On va trouver effectivement dans un certain nombre de lectures théologiques des incitations à la violence. Et ces incitations à la violence se nourrissent du paradigme hégémonique porté par un certain nombre de théologiens et partagé par la grande majorité des théologiens du monde musulman, d'une manière générale.
Bon, c'est un débat qu'on pourra reprendre, j'imagine, à la faveur de l'actualité ces prochaines semaines, ces prochains mois sur cette antenne. Merci en tout cas à vous quatre, Sadek Belloussif, Samir Amgar, Solène Joanneau, Didier Lesky, d'avoir pris part à ce débat. C'est la fin de la première partie d'Une semaine en France.
Porque tu fala de mim mesmo se eu não peço. Agora fala dos fracassos e cala com meu sucesso. Eu sei que enquanto um conto aumenta um ponto, a tua língua afiada nunca me dá um desconto. Desculpa, mas assim só vai arrumar um confronto. Teu papo não é reto, de tanta curva eu já tô tonto. Então ponto final, já acabou tua moral. Se subindo no morrão, é certo, vai passar mal. O asfalto é igual, teu conceito tá normal. Onde só pra falar um monte na moral. Teu papo de sete só serve pra lugar. Nunca vi tuas conversas servir para ajudar. Não tem dó em semear, espalha discórdia. Depois não adianta chorar e vim pedir misericórdia. Porque eu sei que
falador passa mal, rapaz. Falador passa mal.
Tá achando que isso aqui é a casa da mãe Joana?
Causada, mal contada, palavra desregulada, conversa afiada, chega de mancada, falatório vale nada. Nossa história tão mandada e sua mentira interpretada. Na roda é piada, mala da crise de nervo, fala pelos cotovelos, calo, boca de bueiro, mente, arrepia os cabelos. Chega, fala, gira, gesticula e faz gracinha, dá risada, mão no ombro e articula, pico, engana, nem que usasse. Ele calcinha, ainda apanha numa briga, faz fofoca, mente muito, escolhe o alvo e faz intriga e prejudica até quem se diz ser uma pessoa amiga. Meu espírito dos outros esquece da própria barriga e poupa nem os das.
À l'instant sur France Culture, Falo Nada par le groupe brésilien Cone Crew Diretoria.
Une semaine en France, Antoine Dulster.
Il est 13h30 sur France Culture, place à la deuxième partie de notre émission qui nous emmène assez loin des cultes et de la religion musulmane, même si nous allons parler d'une expérience qui est vécue par beaucoup comme une quasi-religion, le sport extrême. Se découvrir, dépasser ses limites, aller toujours plus haut, plus loin, plus fort. Impossible d'échapper à tous ces slogans alors que débutent ces jours-ci les JO de Rio. Mais partout en France, des millions d'athlètes semblent regarder avec une certaine distance ce cérémonial olympique réglé au millimètre. Autant de sportifs du quotidien que vous aurez plus de chances de croiser sur la route des vacances que dans les travées du stade Maracana. Je parle des adeptes des sports dits extrêmes, trail, sport d'eau vive, saut en parachute, base jump et j'en oublie. Certains n'hésitent pas à parler de démocratisation de ces sports qui étaient réservés à une élite il y a encore quelques années. Comment comprendre ce phénomène de société très récent, conséquence peut-être logique de nos modes de vie très sédentaires, volonté de repousser ses limites en se mettant en danger? Pour parler de ces sujets, nous avons choisi de faire dialoguer un témoin et un expert. L'expert, c'est vous, Abou Gnaba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, fondateur de l'Institut d'études internationales Sociolab, auteur d'une étude qui paraîtra en 2017, « Sport extrême et société du spectacle, transformer sa vie en destin ». Et le témoin, c'est vous, Cédric Turcot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 41 ans et vous êtes, comme on dit dans le jargon, un multi-finisher de trail, ces grandes courses de pleine nature de plusieurs dizaines d'heures. Alors, vous pratiquez ce sport depuis une dizaine d'années, je crois, et vous êtes arrivé au bout de 14 de ces parcours, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Alors, nous aurons aussi tout à l'heure par téléphone Michel Poletti, le directeur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, une course qui est devenue mythique depuis sa création en 2003. Ma première question s'adresse à vous, Abou Gnaba. Vous avez suivi pour une enquête plusieurs groupes de pratiquants de sport extrême et notamment de ces fameux trails. Comment expliquez-vous l'engouement actuel autour de cette discipline et pourquoi vouloir se dépasser à ce point? Au fond, d'où vient ce phénomène de société?
Alors c'est Abdou, comme ça je pourrais répondre à mon nom précis. Il vient de multifacteurs, donc évidemment on va simplifier ici, il faudra qu'on précise ce qu'on entend par sport extrême, mais globalement je dirais que il vient parce que nous vivons dans un monde qui est très normé, et donc on va vouloir, grâce à ces sports dits extrêmes, retrouver un certain sens du risque et un certain sens de la responsabilité. Il s'explique aussi parce qu'on est dans un monde qui est survalorisé, qui est surmontré, donc il va s'agir dans les sports extrêmes, de redécouvrir le monde, d'aller sur une arête du Mont Blanc et tout d'un coup de la voir différemment de ce qu'on aurait pu voir à la télé ou dans des journaux, et tout d'un coup se réapproprier ce monde qui est finalement devant nous. Et enfin, il s'explique parce que la société du spectacle crée le désir qui est toujours mimétique et donc l'envie pour tout le monde, comme vous appelez ça démocratisation, de sauter en parachute ou de faire comme les gens qu'on aura pu voir sur les médias sociaux ou autres. Mais je finirai, et je ne le développerai pas là, évidemment sur le grand besoin et la véritable explication de l'évolution de ces sports, c'est une recherche, une quête et un besoin spirituel.
Cédric Turcot, je me tourne vers vous. Comment ça a commencé dans votre cas? Je crois que vous avez 41 ans, vous travaillez chez Renault. À quel âge donc vous êtes tombé dans ce trail? Comment ça a commencé pour vous?
Alors en fait, pour moi, j'ai d'abord un passé quand même sportif jusqu'à l'âge de 18 ans, du handball à niveau régional. J'ai été obligé d'arrêter le sport pour des questions d'études et des problèmes de santé. Et finalement, j'ai repris en 2003 la course à pied, par la route principalement, puisqu'aujourd'hui, en 2003, les courses nature commençaient à peine à se développer et donc on était plus sur de la route avec toujours le mythe du marathon. Donc moi j'ai recommencé par là, et puis finalement la route est très très exigeante par rapport aux entraînements, par rapport au plan d'entraînement, par rapport à ce genre de choses-là. Donc j'ai été uniquement sur le semi-marathon, et les courses nature ont commencé à s'ouvrir à cette époque-là. Il faut se souvenir que l'Ultra Trail du Mont-Blanc a été créé en 2003, et donc à partir de 2006, je commence à aller sur des courses nature en augmentant petit à petit les distances, les kilomètres, les difficultés. Ça m'emmène sur du 50 km en 2007, sur mon premier ultra avec l'Ecotrail de Paris, puisque c'était sa première édition en 2008, et ensuite mon premier ultra de montagne avec la CCC en 2009.
Est-ce que vous avez eu le sentiment finalement que cette volonté de se dépasser, cet enchaînement de courses que vous décrivez, c'était aussi une sorte de complément de vie à côté de votre vie professionnelle? Abdou Gnaba en parlait tout à l'heure, cette espèce de nécessité à côté d'un travail qui peut être prenant, de se réaliser, de se dépasser complètement.
Je pense que ça ramène un équilibre parce que, de par ma profession, on peut avoir des semaines que l'on ne gère pas nécessairement, assez stressantes, où on ne maîtrise pas forcément ses heures de début et ses heures de fin. Et ça permet de rééquilibrer complètement et de se réapproprier le soi, de se relibérer aussi mentalement. Et finalement, on est quand même une super machine qui est le corps humain. Et en la poussant petit à petit au fur et à mesure, on se dit pourquoi pas aller chercher d'autres limites et à la fois retrouver cette authenticité avec les courses qui nous sont proposées aujourd'hui.
Abdou Gnaba, je me retourne vers vous. Qui sont les trailers aujourd'hui? Qui sont les pratiquants des sports extrêmes?
Il y a bien plus de 50% de ces pratiquants qui sont des cadres sup, j'allais dire la grosse trentaine et quadra. Pourquoi? Parce que c'est des gens tout d'abord qui ont des certains moyens. Ça coûte quand même cher. Si vous allez faire le trail de la Diagonale des Fous, je crois que c'est 600. Non, je vais pas dire de chiffres.
C'est à l'île de la Réunion, la Diagonale des Fous.
Ouais, mais en tout cas, ça peut aller très loin. C'est plusieurs centaines d'euros pour pouvoir s'inscrire.
C'est ça. Il faut compter à peu près, on va dire pour les grosses courses, plus d'un euro par kilomètre, pour faire simple.
Voilà. Et encore, les Ironman, très souvent, peuvent atteindre des sommes, je crois, comme 600 euros, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc, ça nécessite des moyens. Ensuite, c'est des gens qui ont une certaine place dans l'entreprise et qui, finalement, ils sont arrivés. Mais ils sont arrivés, ils ont bien compris que ça n'allait pas les satisfaire. Alors quand on écoute les trailers vous dire, écoute, moi je veux me dépasser, je veux ressentir ce que c'est que la communauté avec les autres, et je veux savoir vraiment pourquoi je fais des choses et donner du sens à ma vie. Là, ils vous mettent très souvent en parallèle la charte éthique de leur entreprise ou les comportements et les valeurs des grands groupes dans lesquels ils sont souvent. Ils vous disent, tu vois tout ça, pardonnez-moi pour le mot, mais c'est un peu du bullshit. Alors moi, ce que je préfère, c'est aller me comparer à la nature et et vivre pour pouvoir enfin me sentir exister.
Est-ce que je peux vous demander comment vous avez travaillé justement au contact de ces groupes de sportifs, de trailers, de sportifs extrêmes?
Alors je les salue d'ailleurs. Nous avons quelques informateurs privilégiés, qu'ils soient alpinistes comme Guillaume Delacour, Iron Manner, je sais pas comment on dit, avec Christophe Laborde, ou trailer avec Alban Régnier. Ça, c'est des gens qui nous ont amenés justement sur leur terrain, qui nous font partager toutes leurs expériences. Et puis moi-même, pour pouvoir comprendre, parce qu'il s'agit de le comprendre de l'intérieur, j'ai fait les 100 kilomètres d'Oxfam en Belgique, j'ai monté le Kilimandjaro, j'ai fait plusieurs fois le Tibet et plusieurs sommets d'altitude, quoi. Et c'est là qu'on comprend cette quête spirituelle dont je vais vous parler tout à l'heure.
Quête spirituelle, c'est un mot très fort. Vous pensez qu'il y a une dimension justement mystique presque dans cette envie de se dépasser, d'aller voir plus loin?
Il y a tout d'abord donc un vrai besoin rationnel de se dire mais je veux reprendre le contrôle de ma vie. Pour reprendre le contrôle de ma vie, je veux décider moi-même quel risque je veux prendre. Or, on est dans une société de sécurité à tout prix et de normalisation. Regardez, autour de cette table, je pense que nous sommes tous allés à l'école en France. Et en France, nos instituteurs ont fait l'école normale. Et en France, quand on est très 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 intelligent, on fait l'école normale supérieure. Donc tout ça, ça vous donne déjà une idée de la façon dont on nous programme. Et à être programmé, c'est pour ça que c'est surtout les cadres sup qui y vont, qui ont été surprogrammés. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informatique, justement, ou dans des métiers techniques. On se rend compte qu'ils ont envie de se déprogrammer. Le principe de ces sports extrêmes, c'est de briser ces automatismes pour retrouver dans ce qu'on appelle le grand ennemi, le doute, l'imprévu ou l'improvisation.
Cédric Turcot, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que décrit justement Abou Gnaba? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette description?
Je partage complètement. Alors après, moi, ma philosophie, je suis vraiment dans le faire avec. C'est-à-dire que on a une machine qui est formidable et il faut que la tête communique avec le corps, que le corps communique avec la tête par rapport aux épreuves dans lesquelles on va s'engager, puisque vous le verrez aussi, je pense, par rapport à des grands champions, hein, ils vont vous dire aujourd'hui, moi je prends le départ, hein, et ils vont jamais avoir une espèce de prétention par rapport à ça, et c'est tout, on va dire, cette espèce d'égalité et vraiment, on va dire, dans le faire avec, hein, pour amener la tête et le corps au bout de ces épreuves-là, et bien entendu en étant finisher de préférence.
Alors Cédric Turcot, vous serez, je crois, à la fin du mois d'août présent à l'un des rendez-vous les plus courus de la discipline dans le monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Nous avons pu joindre son directeur Michel Poletti à Chamonix. Je lui ai demandé comment il expliquait l'engouement général autour du trail. On donne souvent le chiffre de 300 000 personnes en France qu'il pratiquerait toute l'année.
300 000 coureurs, certainement pour ce type de distance. Plus près d'un million ou de plus d'un million de coureurs qui pratiquent le trail, qui est de la course en nature, la course sur les chemins, sur des distances peut-être plus courtes. Donc est-ce que c'est un phénomène de mode nouveau? Oui, depuis 15 ans, il y a une forte aspiration des sportifs effectivement, une forme d'engagement qui permette d'aller un peu chercher ses propres limites, dans un esprit quand même de découverte de la nature. Donc je pense que c'est à la fois ce mixte de repousser ses limites et d'aventure en pleine nature qui fait le succès aujourd'hui du développement du trail et en particulier de l'ultra-distance qui nous réunit aujourd'hui.
Alors, l'Ultra Trail du Mont Blanc, hein, une course dont vous êtes le directeur, est née en 2003. Est-ce que depuis cette époque, vous avez vu le profil des coureurs évoluer?
Oui, quand on a lancé cette course en 2003, on avait effectivement affaire à un petit noyau de coureurs passionnés ou de montagnards, de très grands randonneurs qui se sentaient capables et qui avaient envie de faire cette grande aventure du tour complet du Mont Blanc. Et on a vu une évolution dans le sens où c'est quelque chose maintenant qui touche plus particulièrement les citadins, les gens qui font de la course sur route, qui s'essayent au marathon et qui ont envie, une fois qu'ils ont réussi un ou deux ou trois marathons, qui ont envie d'explorer, d'aller plus loin dans leur quête et d'explorer ce genre d'ultra-distance que représente une course comme l'UTMB.
Alors on l'a dit, hein, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, une vingtaine d'heures de course pour les meilleurs. Ça nécessite quoi comme qualité, ce type d'effort?
ça nécessite d'être avant tout d'en avoir envie. Il faut avoir une constitution physique raisonnablement bien adaptée. Ça s'adresse à des bons sportifs, mais je dirais que ce qui qualifie le mieux ce genre de pratique sportive, c'est que c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'adresse à des gens ordinaires. On n'a pas besoin d'une constitution physique extraordinaire. Un sportif qui s'entraîne régulièrement pour réussir un marathon, s'il poursuit dans sa volonté, a toutes les chances de pouvoir un jour terminer une course comme l'UTMB.
Michel Poletti, le succès de cette discipline ne va pas sans quelques difficultés. On parle de plus en plus d'encadrement, de règles. L'arrivée des sportifs internationaux très connus comme Kylian Jornet, qui a remporté 3 fois l'épreuve, hein, en 2008, en 2009 et en 2011, je crois. Est-ce que cette arrivée marque une professionnalisation de ce sport? À titre de comparaison, en 2006 et en 2007, c'était Marco Olmo, qui était un amateur et un vétéran. Il avait 57 ans la première fois qu'il a remporté l'épreuve. Donc lui avait un profil beaucoup plus amateur. Est-ce qu'il y a comme ça une transition, un changement?
Est-ce que ça marque une évolution vraiment vers le professionnalisme? Non, pas encore. Le trail running, les athlètes qui peuvent vivre de ce sport aujourd'hui, il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main. Une fois qu'on a parlé de Kylian Jornet, il n'y a pratiquement personne d'autre. Ça reste un sport amateur et la communauté du trail running aujourd'hui est très attachée à ce que ça reste comme ça.
Une semaine en France, Antoine Dulster.
On écoutait à l'instant Michel Poletti, directeur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui a répondu à nos questions par téléphone depuis Chamonix. Réaction en plateau, Cédric Turcot, vous participerez donc à cette épreuve de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Ça représente quoi pour vous? Vous êtes suffisamment préparé, suffisamment fort?
Ça, on arrive toujours avec quelques doutes quand même sur la ligne de départ, parce que l'épreuve est quand même énorme, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé. Donc je dirais que la chance...
Pour un temps de parcours à peu près entre 20 et 40 heures, c'est ça?
Pour 20 et 40 heures, alors quand on dit 20, ça sera les premiers, où même eux vont vous expliquer que ça peut être difficile pour eux. Mais avec tout le respect qu'ils peuvent avoir pour nous, parce que je m'estime être coureur de fond de peloton, et avec la projection qu'ils peuvent avoir de dire, bah nous on est resté une nuit dehors, eux vont rester 2 nuits dehors, hein, vont quasiment doubler le temps de parcours, hein, et on se met à la place par rapport à ça. Donc à un moment, voilà, moi j'estime qu'on va arriver suffisamment préparé, on va surtout avoir la chance d'être sur la ligne de départ, si on est en suffisamment bonne condition et pas blessé, c'est déjà un très bon début.
Anouk Naba, on a parlé de Kylian Jornet à l'instant dans l'interview de Michel Poletti. Kylian Jornet, très populaire, donc ce coureur catalan, très populaire dans le milieu des coureurs. C'est une personnalité à la fois simple, accessible, avec des performances sportives impressionnantes, dont 3 victoires dans ce fameux Ultra Trail du Mont Blanc. Est-ce que l'émulation passe par la médiatisation aujourd'hui de ce genre de figure?
Il y a très peu de stars, en tout cas dans tous les sports extrêmes, et ils sont pas perçus comme des demi-dieux, mais au contraire comme des chefs de tribu tout au mieux. Ils sont valorisés pour leurs compétences, mais leurs compétences, c'est jamais de la compétition contre quelqu'un d'autre. C'est toujours, ils gagnent contre les forces de la nature et en fait contre eux-mêmes, puisqu'ils ont réussi à se dépasser et à arriver en bonne santé. Parce que le principe d'un sport extrême, c'est absolument pas ni de se blesser et encore moins de mourir. Maintenant, il y a un autre effet de médiatisation qui est les réseaux sociaux, les caméras dont toutes les marques, je ne citerai pas ici, font l'apologie justement de ces sports de plus en plus extrêmes finalement. Et donc, s'il y a un phénomène de mode, alors à l'époque on appelait ça le phénomène Ushuaïa, ça a commencé comme ça, c'est pour ça qu'il dit il y a 15 ans, mais ça s'arrête pas là quoi. Il n'y a pas que TF1 et toutes les émissions de télé-réalité qui vont faire émerger ces sports. Les réseaux sociaux, Instagram notamment, fait beaucoup pour rendre spectaculaire quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et donc donner envie à des jeunes de s'y mettre.
Donc des sports qui se développent énormément. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une contradiction entre une certaine professionnalisation de ce sport qui a été pensée à l'origine comme une rupture avec un mode de vie trop monotone, une rupture avec un cadre citadin, justement?
C'est pour ça que toute fédération, aussi forte soit-elle, sont toujours contestées par les vrais riders, quels qu'ils soient, en se disant, nous, notre principe, c'est justement de sortir du cadre de la société et de créer notre propre cadre. Or, une fédération, par essence et par nature, ça veut enfermer dans des règles. Évidemment, très souvent des règles de sécurité, et puis pour le plus grand bien de tous, mais ils sont très souvent contre cette idée-là. Et c'est pour ça que vous verrez de plus en plus de courses, je ne vais pas dire clandestines, mais des courses complètement indépendantes se créer pour que ces vrais freeriders continuent à trouver des champs d'exploitation de leur art qui soient le plus vierge possible de règles.
Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec cette médiatisation par les vidéos dont vous parliez à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une espèce de contradiction avec la philosophie ascétique un petit peu qu'on pourrait prêter à tous ces sports? Quand on doit passer par des sports qui se professionnalisent, quand on doit mettre en ligne ses exploits, quand on a presque ce réflexe comme ça, est-ce qu'on est vraiment encore en train de faire du sport dans la nature?
On se sent presque obligé, mais là, ça correspond à une certaine partie de ces gens-là qui n'y ont accès que par raison mimétique, en fait, en se disant « ça doit être bien, donc je vais le faire, et je vais me prouver que c'est bien en regardant et en mettant à distance grâce aux images pour voir si je suis plus aimé ou pas ». Mais là où la contradiction se situe, de façon encore plus pertinente, c'est que nous sommes complètement ici assis sur le mythe de notre société de consommation, parce que les marques font beaucoup aussi hein, pour simplifier les matériels, pour les rendre plus accessibles, même en termes de prix, au plus grand nombre. Mais tout d'un coup, c'est quoi les valeurs? Alors, on va accéder à ces sports pour accéder aux valeurs que le marketing aura mis, notre société de consommation aura mis en avant. Et c'est quoi? Profite de ta vie, fais attention à rien laisser passer, va chercher le plaisir. Or, fondamentalement, c'est complètement à l'opposé de ceux qui initient ces sports et ceux qui le font enfin, dans la philosophie la plus pure possible, c'est-à-dire une véritable recherche intérieure, et comme l'a dit M. Poletti, pouvoir se dépasser, connaître son corps et faire en sorte que la machine refonctionne indépendamment des réflexes pavloviens qui sont tous les nôtres dans notre société aujourd'hui.
Alors que la machine fonctionne, ça c'est dans le cas où il n'y a pas d'accident. Justement, ce qu'on voit peut-être apparaître avec donc tous ces sports qui se démocratisent comme le trail, c'est que d'un autre côté, ceux qui sont plus dans les sports extrêmes, qui pratiquent aujourd'hui par exemple la wingsuit ou qui font des activités beaucoup plus à risque, donc la wingsuit, hein, cette aile volante qui descend les montagnes et qui permet d'arriver jusqu'en bas dans la vallée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes avec ces phénomènes de contagion? On sait que la mairie de Chamonix a interdit ces vols en wingsuit. Vous avez vous-même rencontré des gens ou des communautés de gens qui étaient dans ces sports
C'est très
qui
souvent...
peuvent provoquer des accidents.
Il y a différentes raisons hein, pour lesquelles on se jette à corps perdu dans un sport pareil. Très souvent, sans vouloir entrer dans les explications psychologiques, mais il y a quand même une volonté de réintégrer l'autorité ou les règles. Donc on n'a pas réussi à le faire dans un temps normal de construction psychique, j'allais dire. Et alors on va chercher les règles à l'extérieur. Donc la corde elle sera toujours de plus en plus longue. On met le wingsuit et puis là vous avez vu. De plus en plus loin et en carrément sauter sans parachute, quoi. Et il a réussi. Donc c'est vraiment là l'idée, non pas de chercher la mort, hein, mais de...
Oui, donc le saut sans parachute auquel vous faites référence, c'est Luke Aikins, hein, donc un saut aux États-Unis de 7620 mètres, donc le 30 juillet dernier, pour arriver finalement dans un filet.
C'est ça. Et là, on est complètement dans le mythe de l'omnipotence. Je peux tout faire et je sais tout faire, donc je suis une partie du monde, mais j'arrive à contrôler et à maîtriser.
Ouais, mais par contre, je dirais que ça, c'est réservé à une certaine élite, à des gens, on va dire, qui peuvent, on va dire, le faire, même à l'image, on va dire, de Kylian, sur lequel il y a pu y avoir énormément de reproches, parce que c'est quelqu'un qui est tellement performant et qui a tellement fait progresser le matériel avec une légèreté aujourd'hui qui est telle, qu'il est quasiment le seul, on va dire, à pouvoir l'embarquer. Alors qu'attention, quand nous, on va attaquer la montagne, je reprends l'exemple de l'Ultra Trail du Mont Blanc, charge à nous en semi-autonomie hein, de partir avec le matériel nécessaire pour affronter les conditions météo. Et les conditions météo, pour l'avoir vécu en 2012, hein, et ben, c'est de partir avec 0 degré à Chamonix, d'avoir de la neige en haut, moins 10 degrés. Donc là, à un moment, bah, si on est trop juste au niveau du matériel, bah, on commence aussi à mettre, entre guillemets, sa vie, voire des parties de sa vie en danger. Donc il faut quand même maîtriser le risque par rapport à ça. Donc tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi, je dirais.
Donc vous êtes finalement, enfin, avec un point de vue un peu prudent, il n'y a pas forcément de ce phénomène de contagion. C'est pas parce qu'on fait du trail ou parce qu'on fait un sport dit à risque qu'on va nécessairement demain
on se mettre à faire la montagne, c'est comme la mer. À un moment, si on prend ce genre de départ là et qu'on est en semi-autonomie, on en accepte les règles, hein, donc il faut quand même partir avec un minimum de sécurité. C'est pour ça que des règlements vis-à-vis des trails hein, se sont sévérisés par rapport à du matériel, pour un moment de dire on part quand même en complète sécurité. Et aujourd'hui sur des grosses épreuves hein, on voit que vous êtes obligé de partir avec un Gore-Tex bas et haut, parce que quel que soit la météo que vous allez pouvoir rencontrer, ça vous met quand même dans des conditions de sécurité.
Est-ce qu'il y a justement une limite à cette démocratisation? C'est la question que je posais à l'instant à Cédric Turcot. Est-ce que, Abdoung Dimba, il n'y a pas aussi l'idée que ça va s'arrêter à un moment donné? Quelle serait la prochaine étape dans cette ruée vers l'extrême des Français?
Ce sera une démarche, plus une marche, mais une démarche. C'est-à-dire qu'on va revenir sur nos pas. Parmi les typologies qu'on essaie d'identifier, nous, il y a les puristes. Les puristes, c'est les bio, si vous voulez. C'est ceux qui refusent justement le Gore-Tex parce que il y aurait des éléments pas conformes justement à leur philosophie, etc. Et qui vont se charger bien plus en partant en montagne pour avoir la corde qui va bien et tout l'équipement et les des marques qui suivent une certaine charte éthique. Donc, je pense qu'on va dépasser le tout extrême, aller toujours plus loin parce que ça a plus vraiment de sens, pour retrouver le pourquoi on le fait. Et là, c'est aux sportifs justement de communiquer un peu plus pour expliquer, comme le fait Cédric sur le plateau, pourquoi ils font ça. Et pourquoi ils font ça, je pense qu'on va en parler tout de suite ou après, mais en tout cas, Bertrand Piccard, Solar Impulse, là, qui vient de réaliser ce merveilleux exploit, pourra vraiment nous éclairer.
Alors pourquoi justement ils font ça ?
C'est vraiment la quête spirituelle de l'être. Alors, ça paraît des grands mots, mais il faut l'avoir vécu. D'où notre démarche d'observation participante. Il faut comprendre les symboles, interviewer les gens, mais il faut aussi le faire. Vous êtes obligé d'être là, ici et maintenant, quand vous êtes dans des situations, peut-être pas de danger, mais en tout cas des situations extrêmes. Et là, aller chercher des potentialités que vous ne soupçonniez même pas. En fait, quand on apparaît, quand on meurt, on disparaît. Donc finalement, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait ? On fait que paraître. Et voilà que tout d'un coup, dans un chemin initiatique, puisque trail, ça veut quand même dire chemin, on va pouvoir non plus marcher, mais démarcher, être juste là, ici et maintenant, parce que tu l'auras certainement expérimenté, en tout cas les trailers l'expérimentent très souvent, il y a un moment où on passe la porte du temps.
Eh bien, merci en tout cas à tous les deux et merci aussi à Michel Poletti qui était avec nous par téléphone depuis Chamonix. Il est 13h53 à l'antenne de France Culture, l'heure de retrouver la chronique de La République par Laurent Kupferman. Bonjour Laurent.
Bonsoir, bonjour.
Une chronique consacrée aujourd'hui à deux visions très opposées de la performance sportive.
Oui absolument, on peut voir rue Oudinot dans le très aristocratique 7e arrondissement de Paris, un immeuble orné d'une plaque qui fait mention des qualités d'un de ses illustres habitants, Charles Pierre Freddy de Coubertin, plus connu sous le nom de Baron de Coubertin. Celui qui deviendra un des rénovateurs des Jeux Olympiques et qui fonde le Comité International Olympique en 1896, y est décrit comme pédagogue, historien et humaniste. C'est cette dernière qualité qui a fait l'objet d'une polémique, aujourd'hui un peu apaisée, mais qui a eu le mérite d'éclairer avec plus de nuances la personnalité complexe de Coubertin. Au-delà de l'homme, c'est toute la pratique sportive après la guerre de 1870 qu'il convient de regarder avec un œil neuf. Le régime de Napoléon III ayant perdu la guerre face à la Prusse, le pays, une fois la paix signée, s'engage dans une de ces fameuses polémiques dont la France est friande. Les impérialistes sont accusés, tant par les républicains que par les monarchistes, d'avoir favorisé un laisser-aller général dans le pays et d'avoir délaissé les armées au profit de la fête impériale, un comble sous les Bonaparte. C'est dans ce contexte revanchard qu'apparaissent les prémices d'une politique de reprise en main des corps supposés ramollis des Français. Si le désir est commun, les projets sont divers. En effet, la Troisième République naissante a d'abord renoué avec l'esprit du décret du 27 Brumaire en III, vous le savez Antoine, c'est le 17 novembre 1794,
évidemment,
qui prévoit de créer une race républicaine robuste. Alors la terminologie de la Troisième République est moins abrupte, mais l'esprit est le même. Un décret présidentiel signé par Jules Grévy et co-signé par Jules Ferry, qui est ministre de l'Instruction publique, prévoit la mise en place de bataillons scolaires dont le principal objet est l'activité physique et la création d'un esprit patriotique. L'enthousiasme des parents est vite douché par celui moins important du parti clérical qui s'offusque. Au lieu de convoquer les enfants à l'église, la Ligue de l'enseignement les convoque au gymnase. Malgré ces critiques, la pratique sportive est devenue obligatoire et va s'organiser autour de deux axes concurrents. L'éducation physique, qui doit profiter au même titre que l'éducation scolaire au plus grand nombre, contre le sport de compétition, cher au baron de Coubertin, qui sera accusé jusqu'au début de la Ve République de favoriser la gloire d'un seul au lieu de l'éducation de tous. Au-delà de ces questions symboliques et fortes, se posent d'autres questions. Le sport est à l'origine réservé à la grande bourgeoisie et à l'aristocratie, qui elles seules ont à la fois le temps et les moyens de s'équiper. Mais avec la loi de 1901 qui permet la création d'associations et la mutualisation des coûts de l'achat de l'équipement, l'accès au sport devient plus populaire. Reste la question du temps. La diminution du temps de travail qui passe de 12 heures par jour en 1874 à 10 heures en 2008 permet un meilleur accès à la pratique de l'exercice physique qui fait partie intégrante du projet républicain d'émancipation de la Troisième République. Mais la querelle sur Coubertin, qui, en homme de son temps, avait une vision un peu darwiniste de la compétition sportive, a finalement trouvé un point d'équilibre. Les Jeux Olympiques se sont ouverts aux femmes, timidement à partir de 1900 et complètement seulement en 2012. Et la victoire de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 a mis fin à une partie de la dérive raciale qui existait, y compris au sein du mouvement olympique. Quant au regard français sur le sport, Coubertin, pas plus que les dirigeants de la Troisième République, n'auront mis fin au léger mépris très churchillien qui fait qu'en France, au-delà de tout clivage politique, il est de bonne aloi d'être fort en thème et très mal vu d'être bon en gym. Enfin, rendons à César ce qui lui revient. Pierre de Coubertin est un de ceux qui aura réussi, et l'épreuve était difficile, à faire aimer le sport aux Français.
Merci Laurent Kufferman. C'est la fin d'une semaine en France. Un grand merci à toute l'équipe. Marie Aubert, Léa Pascoe, Philippe Baudouin qui a réalisé cette émission. À la technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein. Demain à 12h40 sur France Culture, vous retrouverez Isabelle Lasserre pour une semaine dans le monde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la même heure la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Brève encyclopédie du monde par Michel Onfray. Bon week-end à tous sur France Culture.